Express bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Moos, am Mikrofon, viel Spaß auf Radio Kanal K. Bonsoir Bangui, bonsoir Guinée-Conakry, Dakar, Bamako, amis du continent noir, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Kanal K en Suisse alémanique. Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjodji, Lucien Houkanli, Fabi Kouassi et moi-même, Sylvain Amos, constituent l'équipe de production. Mille pensées à nos auditeurs de Légende FM à Lomé au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Bien au sommaire de la première partie de cette édition, la crise en République centrafricaine où les rebelles ont repris les armes depuis jeudi après 2 mois d'accord de paix signé en janvier avec le gouvernement du président centrafricain François Bozizé. Pourquoi la rébellion a-t-elle repris les armes? C'est à cette interrogation que tentera de répondre l'ancien premier ministre centrafricain Martin Zigele en ligne, en direct depuis Paris, dans un instant. Nous parlerons également de la vague de manifestations de la diaspora guinéenne qui continue en Europe. Après celle de Paris samedi dernier, c'est le tour des Guinéens de la Belgique qui réclament un état de droit en Guinée ainsi que le droit de vote lors des prochaines élections législatives. Et merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch. Avant de joindre notre premier invité qui n'est autre que l'ancien Premier ministre Martin Zigele en direct depuis Paris, nous marquons une pause musicale.
Africa, easy ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, lui tombe nos frères. Conjamo Africa, mon naïnia. Manejamo Africa, mon sonyo natangé.
Africa, Africa, Jamu Africa, chanté par Ismaëlo. Les armes crépitent depuis jeudi dernier en République centrafricaine. Les rebelles de la Séléka ont repris effectivement les armes comme ils avaient annoncé il y a quelques jours si le gouvernement de François Bozizé ne satisfaisait pas leurs revendications. Les forces de la coalition de la Séléka, selon les informations, progressent vers la capitale Bangui ce samedi 23 mars dans la mi-journée. Le premier ministre Nicolas Tiangay appelle encore une fois la rébellion à une négociation. Alors pourquoi la rébellion de la Séléka décide-t-elle de reprendre les hostilités seulement après 2 mois de l'accord signé avec le pouvoir en janvier dernier à Libreville au Gabon? Alors pour nous éclairer, nous accueillons dans un instant l'ancien premier ministre Martin Ziguélé en direct depuis Paris.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
Eh bien, merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch. Martin Ziguélé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être l'invité de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes un ancien ministre, un ancien premier ministre sous l'ancien président Ange-Félix Patassé. 2 mois après l'accord de paix signé à Libreville au Gabon, la rébellion Séléka qui menaçait de reprendre les armes a confirmé cela. Et les armes crépitent depuis jeudi dernier en République centrafricaine. Est-ce que l'accord signé en janvier était-il incomplet, Martin Ziguélé?
Non, je vous remercie d'abord pour votre invitation à cette émission. Il n'y a aucun accord au monde qui soit complet et qui puisse prévoir l'ensemble des cas de figure lorsqu'il est mis en pratique. Ce qui est important, c'est la volonté des parties de vouloir aller à la paix. Donc l'accord de Libreville, bien sûr, il ne pouvait pas prévoir tous les cas de figure, mais il est un cadre qui permet d'aller de l'avant, vers la paix. Et je crois que si le problème que nous avons aujourd'hui en Centrafrique s'est transformé en une suite difficile. C'est parce que tout simplement, je pense que la majorité présidentielle, clairement, et le président Bozizé, n'avait pas du tout envie d'appliquer cet accord-là.
Justement, Martin Ziguélé, selon vous, quelle est la part de responsabilité de l'actuel président François Bozizé? Il paraît qu'il n'a pas honoré à certains accords signés avec la rébellion, comme par exemple le départ des troupes sud-africaines installées depuis quelque temps à Bangui.
Oui, mais vous savez, lorsque vous êtes président de la République, vous êtes responsable de la vie de plusieurs milliers, de plusieurs millions de citoyens de votre pays, vous mettez de côté votre propre ego, votre propre agenda pour l'intérêt général. Et je pense que le président Bozizé ne s'est jamais élevé au-dessus de l'intérêt général. Parce que, souvenez-vous, il y a 3 mois, Bangui était vraiment au bord du précipice, et les chefs d'État de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, se sont mobilisés pour apporter leur soutien à une sortie négociée, une sortie pacifique de la guerre qui faisait rage dans le pays. Mais je crois qu'il a voulu, excusez-moi le terme, dribbler tout le monde. Il a voulu gagner du temps, il a voulu prendre du répit, tout simplement, pour vouloir revenir au statu quo ante. Et naturellement, cela n'est pas acceptable et c'est cela qui est à la base de la situation actuelle.
Justement. Alors, certains pensent que la rébellion est très radicale, hein, puisque François Bozizé a répondu favorable à certaines revendications, comme la libération des prisonniers politiques, la levée des barrières frontalières, et même le gouvernement demande encore une nouvelle concertation avec la rébellion. Est-ce que cela serait-il possible à l'heure actuelle?
Non, je crains que cela ne soit trop tard, parce que l'évolution des hostilités sur le terrain, à mon avis, ne laisse plus place à des mesures de ce type-là qui sont complètement dépassées. Et je crains que ça ne soit trop tard, parce que là où on en est, avec l'évolution de la situation militaire sur le terrain, je ne pense pas que ces mesures-là puissent arrêter le cours des choses.
Franchement, et Marthe Zigilé, je le disais, vous êtes un ancien Premier ministre sous l'ancien président Ange-Félix Patassé. Franchement, est-ce que la reprise des armes par la rébellion sera-t-elle la solution de sortie de crise dans votre pays et surtout dans l'intérêt supérieur de tous les Centrafricains?
Mais dans quel pays au monde un conflit armé est une solution à un problème? Que ce soit en Centrafrique, que ce soit ailleurs, les conflits armés ne sont pas de solution à des problèmes. C'est pour ça que mon parti, le MLPC, avec les autres partis membres du collectif de l'opposition démocratique centrafricaine, dès le début du déclenchement des hostilités au mois de décembre, nous avons tout fait, mais je vous dis, vous pouvez croire, nous avons tout fait pour qu'il y ait des négociations de Libreville auxquelles nous nous sommes carrément fait inviter pour que nous arrivions à une solution de paix. Mais pour faire la paix, il faut qu'il y ait de la bonne volonté de part et d'autre. Et je vous dis, je le répète et je le maintiens, que le président Bozizé n'a pas fait montre d'altruisme, de hauteur, de vue et d'esprit pour amener à l'application des accords de Libreville. Il a cédé aux sirènes des extrémistes de son propre camp. Il n'a pas voulu aller au fond des choses et je pense que il a lassé toutes les bonnes volontés qui étaient disposées à l'aider à ramener la paix dans son pays.
Alors une dernière question rapidement. Comment expliquez-vous la non-intervention de la France qui, en début de cette crise, avait quand même déployé près de 200 soldats uniquement pour protéger les ressortissants français?
Oui, mais on ne va pas demander à la France de faire un travail régalien qui revient à notre pays. Nous avons un pays, depuis 10 ans, Bozizé est général d'armée, il a eu le soutien de la communauté internationale, il a eu les appuis qu'il faut pour restructurer une armée. S'il n'a pas été capable de mettre en place une armée, on ne peut pas s'en prendre à la France. Et surtout que lui-même, il a fait réviser les accords de coopération avec la France, coopération militaire, qui exclut toute intervention armée. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire.
Martin Zigilé, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Cette belle musique de la Guinée nous rapproche tout de suite de la crise sociopolitique que traverse la Guinée-Conakry. Eh bien, après les manifestations de Paris samedi dernier, les Guinéens de l'étranger comptent multiplier des manifestations pour réclamer leur droit de vote ainsi qu'un état de droit en Guinée-Conakry. Hier vendredi, ils étaient encore nombreux dans les rues de Bruxelles en Belgique pour crier haro sur la gestion du pouvoir de Alpha Condé. Nous accueillons tout de suite depuis Bruxelles un des organisateurs. Bonsoir, Malabo Diallo. Bonsoir, Malabo Diallo.
Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Merci, merci beaucoup d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, vous êtes un des organisateurs de la manifestation de la diaspora guinéenne hier à Bruxelles. Alors, vous êtes aussi membre du principal parti d'opposition UFDG, Union des Forces Démocratiques Guinéennes. Alors, les Guinéens vivant en Belgique ont manifesté hier dans les rues de Bruxelles pour réclamer leur droit de vote. Alors dites-nous brièvement, Malabo Diallo, comment s'est déroulée cette manifestation?
Ok. En fait, c'est une manifestation qui a été organisée à la place Schuman devant la Commission européenne. Et ce sont les représentants du collectif de l'ADP, du CDR, de l'opposition guinéenne, qui ont initié cette manifestation. Et ils étaient plusieurs milliers de personnes à se déplacer de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Danemark, la Hollande, et même de la Suisse, de l'Angleterre, et les gens de Guinée résidents en Belgique ici à se retrouver devant la place Schuman pour dénoncer non simplement les exactions commises par les forces de l'ordre pendant les dernières manifestations en Guinée, mais aussi demander le départ de Wehmark et surtout réclamer le vote des Guinéens de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora.
Justement, Malabo Diallo, je le disais que vous êtes un des organisateurs de la manifestation de la diaspora guinéenne hier à Bruxelles. Et quel impact aura le vote des Guinéens à l'étranger et sur les prochaines élections en Guinée-Conakry?
Écoutez, vous savez, le pouvoir aujourd'hui perd de vitesse et ils sont conscients que le vote de la diaspora est beaucoup plus favorable à l'opposition, même si ça ne représente qu'un pour cent du corps électoral guinéen, quand même c'est une marge à ne pas négliger. Et aujourd'hui, le gouvernement sait qu'ils n'ont aucun représentant ici au niveau de la diaspora, que les militants qui sont à l'extérieur sont tous de l'opposition. Donc, voilà, c'est ça, ce refus-là. Parce qu'ils savent que même si on ne peut pas voter à l'unité nominale, mais sur la liste nationale, les voix de la diaspora vont compter et vont peser. Donc ce que nous réclamons, c'est juste de respecter la constitution guinéenne. Justement, qui nous accorde ces droits-là.
Uh-huh. Et de voter. Voilà. Est-ce que si le gouvernement n'arrive pas à recenser ou à donner le droit aux Guinéens de l'étranger à voter, est-ce que les manifestations vont continuer?
Écoutez, actuellement on a commencé un processus qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. La dernière fois, on a organisé à UK, on a organisé à Paris devant l'Assemblée nationale. Et cette manifestation du Paris, je rappelle, c'est cette manifestation qui a permis la mise en place d'une médiation internationale en Guinée. Et ici, hier, on a demandé l'implication de la Commission européenne. et surtout de demander à l'Union européenne aussi de saisir M. Van Damme qui est en Guinée, qui est en train de certifier ou bien d'accorder un certain crédit au système UEMARC, que tout le monde sait, qui est discrédité par le système des Nations Unies, par le PNUD. Maintenant, est-ce que les manifestations vont continuer? Ce que je peux vous confirmer, nous, tant que le gouvernement ne respecte pas ces principes-là, nous allons continuer à taper le pavé parisien.
Uh-huh.
Parisien et ici à Bruxelles, d'autant plus que M. Alpha Condé, aujourd'hui, qui est en train de bafouer notre droit, hier, on manifestait ici en Europe avec lui pour demander le départ des militaires. Et cette fois-ci, ça va être, si ça continue comme ça, ce que nous allons faire, c'est de demander son départ.
Merci, merci beaucoup, Maladou Diallo, un des organisateurs de la manifestation de la diaspora guinéenne qui s'est tenue hier à Bruxelles. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci d'être en direct avec nous sur le www.kanalka.ch dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et bien évidemment, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, nous allons toujours rester en Guinée pour discuter avec notre invité de ce soir, qui n'est autre que Ansmane Doré. Il est professeur d'économie à la retraite. Il est également doyen des Guinéens vivant à l'étranger. Bonsoir, Ansmane Doré. Bonsoir. Je pense qu'on l'a perdu. Nous allons essayer de le relancer encore une fois d'ici quelques secondes.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bien, je pense que cette fois-ci, tout est bien au niveau de la France. Nous avons réussi à joindre maintenant Ansmane Doré depuis la France. Bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Merci, merci beaucoup d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique pour parler avec nous de la crise socio-politique guinéenne. Je le disais, vous êtes professeur d'économie à la retraite. Vous êtes également un doyen des Guinéens vivant à l'étranger. Alors les Guinéens et même ceux de l'étranger manifestent depuis quelque temps et dénoncent la gestion chaotique du pouvoir de Condé Alpha, qui a été pourtant élu démocratiquement. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous ce regain de tension en Guinée-Conakry?
Bien, je dois d'abord remercier de m'avoir reçu et je dis bonsoir à mon compatriote Malabo. Eh bien, tu disais tout à l'heure que je suis le doyen. Non, je suis un des doyens. Mais je reviens à ta question. Je suis l'un des doyens, mais pas le doyen unique.
Justement.
Voilà.
C'est clair.
Bien.
Allez-y.
Alors, je reviens à ta question.
Merci.
De savoir l'origine des tensions qui existent en Guinée. Cette tension, elle n'est pas entre la population et entre les populations. La tension, c'est le pouvoir en place qui a créé cette tension. Je vais d'ailleurs rappeler une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que l'actuel président Alpha Condé était celui, il était d'ailleurs parmi nous à l'extérieur, donc c'était un diaspo, comme on dit, pendant 50 ans, et j'ai entendu Malabo Diallo dire tout à l'heure que nous luttions pour que les étrangers, plutôt les Guinéens de l'étranger, puissent voter. Alors, c'est un des paradoxes de la Guinée. Alpha Condé, qui s'est battu pendant des années pour que ces diasporas soient reconnus, pour que ces diasporas aient leur place en Guinée, est celui maintenant qui fait obstacle à ces diasporas-là sur le plan de l'élection. Ceci dit, je reviens à la tension. Je disais que l'origine même de cette tension, en tout cas une bonne part de cette origine, est née de Alpha Condé lui-même. On se rappelle, tous les Guinéens se rappellent, que sous Conté, le général Conté, Alpha Condé avait lancé ce slogan qui était de dire que tout malinqué, donc il appartient, c'est l'ethnie à laquelle il appartient, tout malinqué qui voterait pour le général Conté est un bâtard. Bien, alors, quand on fait ce genre, nous pensions qu'il était un des dirigeants d'envergure nationale. Mais quand on va lancer cet appel-là qu'à sa propre communauté, ça veut dire qu'on est l'un des fondateurs des difficultés ethniques qui existent actuellement en Guinée. Et tout Guinéen vous dira que en Guinée, pendant des siècles, pendant des années, les Guinéens ont cohabité ensemble sans aucun problème.
Justement.
Cette histoire d'ethnie est venue, ça a commencé sous l'ère de la Première République, c'est-à-dire avec le panafricaniste Sékou Touré. Cette histoire de problème ethnique est née sous cette période-là, notamment dans les années 70. Et Alpha Condé, intellectuel qu'il est, en tout cas je le considère comme tel, s'est engouffré dans cette brèche-là pour pouvoir avoir un électorat. Nous pensions qu'il aurait fait appel à tous les... S'il avait dit à l'époque, tout Guinéen qui vote pour le général Conté est un Guinéen qui finalement veut l'assise, veut la solidification de la dictature militaire, nous aurions compris. Mais s'adresser qu'au malinqué, voilà déjà un premier pas de la création de cette tension ethnique qui existe aujourd'hui.
Oui.
Je dirais même, moi j'avais à un moment donné lutté pour le fait, j'avais écrit plusieurs fois, quand on accusait les partis politiques sous l'ancien Conté que c'était des partis ethniques, je disais non, c'est pas des partis ethniques. Il faut bien, partout cela s'est produit comme cela, il faut bien qu'un parti politique naisse en un point du territoire. Et quand il naît en ce point du territoire, eh bien forcément, les gens de ce coin-là vont le considérer comme l'enfant du terroir. Mais c'est à lui de montrer son envergure d'homme d'État pour étendre son influence sur l'aire nationale d'ensemble, sur la totalité du territoire, petit à petit. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre.
Justement. Mmh. Ousmane Doré, je ne vous coupe pas. Parlons justement de ce problème très crucial en Guinée-Conakry. Est-ce que le processus démocratique dans votre pays est-il miné par la politique ethnique, dont les leaders politiques se servent pour instrumentaliser la population guinéenne?
Tout à fait. On s'en sert pour instrumentaliser parce que on a fait, et je dis, si je mets l'accent sur le cas d'Alpha Condé, c'est qu'il a été élu en novembre 2010. À partir de ce moment-là, c'était à lui qui était l'élu. Personne ne l'a contesté. C'était à lui de tendre la main aux autres et de faire en sorte de créer une espèce d'unité nationale. D'unité nationale, je ne dis pas union nationale, je dis d'unité nationale. Il ne l'a pas fait. Il était tellement assoiffé de pouvoir qu'il s'est replié sur lui-même. Il a adopté une position de crispation, crispation qui continue encore aujourd'hui. Parce qu'il l'était, et c'est pas moi seul qui le dit, le général Sekouba l'a répété encore récemment pas mal de fois, il était tellement assoiffé de pouvoir qu'il n'a vu que le pouvoir. Or, voir le pouvoir de la part d'un intellectuel comme c'était son cas, alors ça devient une maladie, et une maladie mortelle pour la nation dont cet intellectuel est le magistrat suprême. Et ça continue en Guinée, la tension, elle est là. Elle est là si bien qu'aujourd'hui, quand on entend les exactions, Malabo Diallo en parlait tout à l'heure, ces exactions, le plus souvent, les victimes dont on entend les noms sont des victimes d'une ethnie, l'ethnie Peul. Or, on peut se demander quel mal l'ethnie Peul a fait à la Guinée. Quel mal un Guinéen peut montrer du doigt en disant « voilà ce que l'ethnie Peul m'a fait ». Un individu peut avoir fait quelque chose à un autre, mais toute une ethnie, eh bien c'est incompréhensible. Or, cette partie de la Guinée est une partie essentielle. On ne peut rien faire de constructif en Guinée.
Ousmane Doré, parlant justement du problème d'ethnie en Guinée-Conakry, hein, alors est-ce que vous êtes peul ou vous êtes malinqué, au fait?
Je suis malinqué comme l'est d'ailleurs Alpha Condé, mais je suis absolument contre les prises de position ethniques. Ce que je souhaite, et bien des Guinéens qui me lisent le savent, ce que je souhaite, c'est l'unité nationale, l'égalité des individus dans la nation, l'égalité de tous les Guinéens.
Alors comment résoudre ce problème pour que le vote ne soit pas ethnique en Guinée-Conakry?
Oui, pour que le vote ne soit pas ethnique.
Oui, comment arriver à résoudre ce problème-là?
Oui, mais cela ne peut pas se résoudre de façon instantanée. Du moment qu'on a mis dans la tête des militants hors dans un parti politique, le nombre de militants de la base, et c'est ce nombre qui est le plus important. On a mis dans la tête des gens cette notion ethnique. Celui-ci est Peul, celui-ci est Malinké, celui-ci est Guerzé, celui-ci est Thomas, celui-ci est Manon, celui-ci est ceci ou cela. On a mis ça dans la tête des gens. Par conséquent, je pense que c'est un mouvement lent qui va se produire.
On doit maintenant sensibiliser le peuple, c'est ça?
Oui, non, mais je dis que je recommande de la part de l'opposition d'avoir une attitude, et je pense qu'il y a des gens dans l'opposition qui sont prêts pour cela, d'avoir une attitude nationale, de considérer tout Guinéen comme Guinéen, et non pas de considérer les Guinéens comme Soussou, comme Malinké, comme Peul, comme Guerzé, comme Thomas, comme Manon, etc. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut résoudre. Et on peut d'ailleurs désamorcer la situation par l'action, l'attitude du pouvoir actuel vis-à-vis de l'ethnie, et surtout vis-à-vis de l'ethnie qui est le plus touché par les exactions. Or, c'est une réalité. Vous pouvez voir, Amos, n'importe quelle liste, le nom des victimes que vous verrez, vous constaterez que le plus souvent, c'est quand même des Peul. Alors, ça, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme cela.
Est-ce qu'a dit que les peuples sont discriminés en Guinée-Conakry? C'est ce que vous voulez dire, Ousmane Doré?
Comment?
Est-ce à dire que les peuples sont discriminés en Guinée-Conakry? C'est ce que vous voulez dire?
C'est ça la réalité. C'est une réalité. On dit le contraire, mais c'est ça la réalité. C'est pas parce qu'on a donné quelques strampontins à un ou deux peuples qu'on va dire qu'ils ne sont pas discriminés. Ils sont là comme des faire-valoir, d'ailleurs, de la politique du président Alpha Condé actuellement. Mais la réalité est que les peuls ont été d'ailleurs la source aussi de ça. C'est que quand les élections se sont passées, le premier tour c'était en juin 2010, Alpha Condé est tombé des nues. Il a vu la réalité de son poids politique. Il n'a fait que 18% de l'électorat. Alors que celui qui était en face, c'est Lou Dalein Diallo, était pas loin de dans les 44%. était dans les 44%. Vous voyez les deux chiffres-là, 18 et 44%. Et c'est quand même énorme. On ne peut pas ignorer un leader de cette taille-là. Bon, or, c'est ce qui s'est passé. Et donc, depuis lors, le malaise qui s'est créé en lui a été... Alors, c'est ce qu'on désigne de façon courante en disant que le roi est nu. Le roi s'est trouvé nu parce que lui était tellement sûr de lui-même d'être le président. Et d'ailleurs, quand un démocrate, entre guillemets, qu'il se qualifiait, un démocrate dit « Il n'est pas possible que je ne sois pas président. » Comment un intellectuel, sur quoi qui se déclare comme étant démocrate, peut dire « Il ne peut pas se passer que je ne sois pas le président. » Voilà un postulat qui était d'ailleurs antidémocratique totalement comme vocabulaire. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'amuser à faire l'analyse du vocabulaire incohérent du président guinéen actuel. Son vocabulaire, il est si pauvre et si incohérent que si on se mettait à l'analyser, eh bien, en quelques minutes, on le mettrait à terre. On le mettrait à terre.
Hansmann,
manigance, tout est manipulation,
je vous comprends.
Tout est fausseté.
On va y aller.
Voilà, c'est ça la réalité de la gouvernance guinéenne. Il ne repose sur pas grand-chose.
Merci.
Les gens qu'il avait amenés avec lui, des groupements...
On va laisser un petit peu ce problème d'ethnie en Guinée-Conakry. Actuellement, tous les Guinéens, les Malinkés, les Peu, les Soussous, savent que ils sont que des Guinéens et ils doivent être ensemble pour reconstruire l'Afrique, pour reconstruire la Guinée-Conakry. Nous allons parler maintenant de la tension qui monte d'un cran en Guinée-Conakry à l'approche des élections législatives initialement prévues au mois de mai. Et l'opposition demande impérativement le départ de la société Wemark, organe chargé de l'opération du recensement des listes électorales. Alors, de qui pense que l'opposition veut tout simplement empêcher Alpha Condé de gouverner? Quelle est votre lecture?
Là, comme toujours en Guinée, les flagorneurs du système en place, parce qu'il y en a eu tout le temps, dès que les militaires étaient là, des gens se sont mis à leur service. Quand Comté militaire a quitté le CNDD qui est venu, des gens se sont mis à leur place en parlant de militaires patriotiques. On connaît ces gens-là. Il en est de même maintenant. Les élections, avant de parler des élections, il faut se dire que le pouvoir qu'a le président de la République de Guinée actuellement est un pouvoir exorbitant. Il a tout. Depuis 2010, depuis donc janvier 2011, il ne gouverne que par décret. Il n'y a pas d'assemblée nationale. Et il se contente de ce fait-là. Or, les Guinéens se rappellent, quand on parle souvent de la radicalisation de l'opposition, c'est que cette opposition a été quand même magnanime. Cette opposition s'est inclinée devant les résultats qui ont été proclamés en novembre 2010. Cette opposition s'était inclinée, mais cette opposition s'était rendue compte de toutes les manigances et toutes les manipulations par lesquelles était passé le pouvoir, le parti politique d'Alpha Condé, c'est-à-dire le RPG. Le RPG avait tissé toutes sortes de ficelles pour retarder. Figure-toi bien, Amos, que entre les deux tours, on a mis 3 mois pour que le second tour, 4 mois, pardon, 4 mois, un peu plus de 4 mois, pour que le second tour se passe. Un jour c'était ceci, un jour c'était cela, et à chaque fois, le parti qui faisait obstruction, c'était le parti d'Alpha Condé. C'est ça aussi la réalité. Comment veut-on que l'opposition qui est en face, qui a admis tout ça, ou plutôt qui a avaler toute cette situation-là, se laisse faire cette fois encore. Tu as parlé tout à l'heure d'élection au mois de mai. Ben moi, je suis convaincu que cette élection n'aura pas lieu au mois de mai. Rien n'est prêt.
Effectivement,
oui. Conscients savent que ça a été encore un bluff et que l'élection n'aura pas lieu au mois de mai. Et je crois que moi, personnellement, je me dis ceci, que la situation qui est celle d'Alpha Condé, eh bien, il se complète très bien dans cette situation-là. Il gouverne par décret, et il va faire un mandat dans cette situation j'allais dire presque illégal, puisque le pays n'a pas d'Assemblée nationale alors que la Constitution en prévoit, les élections législatives auraient dû avoir lieu au mois de juin 2011. Nous sommes quand même au mois de mars 2013, il n'y a pas d'élection encore. Donc c'est le scénario babo qu'il est en train de tisser pendant longtemps, parce que moi je dis que le pouvoir qu'il a en Guinée, s'il voulait débloquer la situation, il y a longtemps qu'elle serait débloquée. Or, on a fait souvent référence à la CENI, la Commission nationale indépendante.
Justement, en ce moment de réparant justement de cette CENI, l'opposition avait demandé entre-temps et que Alpha Condé change la CENI, la composition de la CENI, et ça a été fait. Alors l'opposition demande actuellement le départ de Wimark, et après l'opposition réclame également le droit de vote de la diaspora guinéenne. Est-ce que ce n'est pas demandé un peu trop? Est-ce que les gens disent, est-ce que l'opposition veut tout simplement empêcher Alpha Condé de gouverner?
Non, ça c'est le slogan que le pouvoir met en avant et ça fait partie de son appareillage d'intoxication. L'opposition n'a aucun pouvoir en Guinée pour empêcher le président élu de gouverner. C'est absolument faux. C'est pas l'opposition qui a l'armée. C'est pas l'opposition qui a la justice. C'est pas l'opposition qui a la police. C'est pas l'opposition qui a la gendarmerie. C'est pas l'opposition qui a le cordon de la bourse. C'est le pouvoir exécutif qui a tout ça. L'opposition n'a aucun moyen. Alors, quand on dit que l'opposition empêche de gouverner, mais c'est un argument facile et factice. C'est du mensonge à corps, comme ils sont habitués, mais ils n'en sont pas à un mensonge, à une manipulation. La réalité, ce que je te dis, c'est que cette situation, ça les arrange. Et tous les flagorneurs qui tournent autour, qu'ils soient intellectuels ou autres, disent que l'opposition les empêche de gouverner. Mais peuvent-ils nous montrer un instrument par lequel l'opposition a empêché le gouvernement de travailler, a empêché les fonctionnaires de travailler? L'opposition n'a pas ces moyens-là. Si on donnait tous les moyens à cette opposition, j'entends les moyens légaux, eh bien, oui, alors à ce moment-là, on aurait pu peut-être le dire. Mais cette opposition, à chaque manifestation de l'opposition, manifestation prévue par la Constitution, sur laquelle le président actuel a prêté serment. Chaque fois qu'il y a manifestation, il y a mort d'homme. Et très très souvent, ces morts d'hommes, c'est du côté des partisans de l'opposition.
Bien, et là encore, je vais devoir rebondir là-dessus, sur ces manifestations. En Guinée-Conakry, il y a souvent des morts, des blessés. Alors du coup, les deux camps s'accusent. Alors à qui imputer vraiment ces hostilités dont est victime le peuple guinéen?
Mais Amos, c'est facile. Et souvent, qu'est-ce que le pouvoir fait à ce moment-là? On dit oui, c'est l'opposition qui est cause des victimes, tout ça, mais ce n'est pas l'opposition qui tire sur ses partisans. Ce n'est pas l'opposition qui... on a vu le nombre de morts aux manifestations du 27 février. Bon, mais tout ça, c'est pas l'opposition. Ça serait quand même masochiste que l'opposition tire sur ses partisans.
Est-ce que l'opposition n'arrive pas aussi à encadrer les manifestants? Et puisqu'actuellement, il y a 23 personnes qui sont arrêtées comme fauteurs de troubles en Guinée-Conakry. Qu'est-ce que vous en pensez, Ansmane Doré?
Oui, mais on dit 23 personnes, peut-être même qu'il y a beaucoup plus que ça. On a fait que cela, arrêter des manifestants, les intimider, au besoin, les tuer froidement. Et c'est ça qui a été l'arme de tout pouvoir depuis d'ailleurs la Première République, encore que sous la Première République il n'y avait pas de manifestation. Bon, mais la Deuxième République, ça a été la même chose toujours. C'est toujours du côté de l'opposition qu'il y a des morts. C'est pas du côté... Alors, de temps en temps, on dit oui, mais oui, c'est un homme aussi qu'il faut respecter. On dit il y a un agent qui a été tué. Ben oui, mais un agent pour combien? On ne va pas rentrer dans cette comptabilité macabre. Même le militaire, le policier qui est tué, c'est un Guinéen aussi respectable. On s'incline devant sa dépouille, mais il n'était que seul. Et on ne sait pas d'ailleurs si, on ne sait pas, je vais même plus loin là, on ne sait même pas si c'est pas des agents même, c'est-à-dire des agents dans le même camp que lui qui lui ont tiré dessus. Parce que quand on a un pouvoir machiavélique comme cela, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout et à tout. Or, si Alpha Condé a excellé en quelque chose, c'est le machiavélisme, le mensonge
Merci.
D'État,
Merci.
L'imposture. Mmh. L'imposture, c'est de vouloir se faire prendre pour ce qu'on n'est pas.
On va continuer. Hansmane Doré, avant de continuer cet entretien avec vous sur la crise sociopolitique en Guinée-Conakry, nous marquons une pause.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio-Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, vous nous suivez en direct sur le www.canalk.ch, entretien que nous sommes en train de faire avec un des doyens des Guinéens vivant à l'étranger. Il s'agit tout simplement de Hansmane Doré, professeur d'économie à la retraite en direct depuis la France. Alors, nous allons parler maintenant et de la question sur une médiation qui divise l'opposition et le pouvoir du président Alpha Condé. Alors, selon vous, en ce moment de réel, faut-il une médiation étrangère pour résoudre la crise politique guinéenne? Jusque-là, à propos du dialogue, les positions sont toujours inconciliables.
Tout à fait. Tout à fait. Non, mais si les Guinéens pouvaient avoir une médiation qui leur permette de se parler, de s'asseoir ensemble à la même table, de se parler afin d'aboutir à une situation d'apaisement, je pense que personne ne serait contre ça. Mais je reviens encore en arrière. On parle de position radicale. Il y en a qui n'hésitent même pas à utiliser cet adjectif radical de l'opposition. Non, ce n'est pas une opposition. En Guinée, il n'y a pas d'opposition radicale. C'est le pouvoir qui est radical. Le pouvoir, ce que le pouvoir cherche, et c'est ce que personne ne peut comprendre, et je parle là pour les partisans du pouvoir, les flagorneurs, les turiféraires, je parle pour eux qu'ils réfléchissent un tout petit peu, que, en fait, ce sont eux ou leurs patrons qui disposent de tout le pouvoir. Et par conséquent, si l'opposition est sûre d'une médiation, l'opposition l'accepterait. La preuve, d'ailleurs, on parle de 3 médiateurs, de 3 facilitateurs actuellement. Ces 3 facilitateurs, l'opposition a déjà désigné la sienne. Et la balle est dans le camp du pouvoir. Le troisième facilitateur serait un étranger, dit-on, un Sénégalais. Bon, mais c'est une bonne chose si on va vers là. Je pense que si l'opposition se rend compte qu'il n'y a pas d'entourloupe là derrière, qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, qu'on veut parler franchement, les yeux dans les yeux, les Guinéens les yeux dans les yeux, eh bien, je suis sûr que l'opposition marcherait à ce moment-là dans cette facilitation. L'opposition n'est pas contre. L'opposition a été toujours disposée. Mais alors, ce qu'on dit que l'opposition est radicale, c'est qu'on voudrait que ce soit une opposition de type agneau, c'est-à-dire qui accepte ce qu'on dit, c'est-à-dire comme d'ailleurs tous les gens qui entre les deux tours, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, tous les gens qui ont rejoint Alpha Condé, beaucoup d'ailleurs l'ont déjà quitté, eh bien, on voudrait que l'opposition se transforme à cette image-là de soumission. Cette image de soumission. Or, lui, Alpha Condé, n'a jamais accepté de se soumettre ni à Sékou Touré, ni à l'Ansana Conté. Pourquoi voudrait-il maintenant, lui qui a lutté pour la démocratie, pourquoi voudrait-il qu'il ait en face une opposition docile? Une opposition docile. Et cela, d'ailleurs, ne ferait pas l'affaire de la Guinée. Parce que cela nous mènerait à quoi? À un parti politique unique. le parti unique. Or, nous avons eu, de par la lutte, y compris de lui-même d'ailleurs, de par la lutte de l'opposition sous Lansana Conté et puis d'autres grands leaders, nous avons eu le multipartisme. Le multipartisme, c'est ce qu'il faut à une société pour aller vers la fertilité
bien évidemment,
de la nation.
Oui. Uh-huh.
Mais vouloir le parti unique uh-huh. parce que on se plaît à être le roi tulé là qu'on adule, eh bien on n'est plus de cette époque-là. Uh-huh. Je disais, il n'y a pas longtemps qu'Alpha Condé est resté figé dans l'image du chef de l'État des années 60. Le chef d'État dont on chante les louanges de village en village. Il est resté à ce stade-là. Et c'est quand même dommage pour la part de quelqu'un qui se désigne comme étant professeur, donc un intellectuel.
On vous comprend. Asmane Doré, rapidement, nous tirons vers la fin de cette émission et de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, vous participez à une émission panafricaine. On parle justement de la France-Afrique, même si ce système est en voie de disparition, selon le président François Hollande. Beaucoup de pays africains gardent quand même encore les séquelles de ce système qui continue en coulisses, selon certains observateurs. Est-ce que la Guinée-Conakry fait exception à ce système ?
Bien, tu as quand même dit un mot là qui est très juste, à savoir que c'est peut-être du côté de l'Afrique, où la France-Afrique a encore un avenir. Mais d'ailleurs, moi je vais être iconoclaste sur cette question-là de France-Afrique. Je crois qu'on a écrit beaucoup, et beaucoup de choses fausses. La France-Afrique est une réalité. Que les gens, les intellectuels africains, que les politiques africains aillent contre le type de France-Afrique qu'on a connu, qui avait été personnifié par des gens comme Focard en France, Focard et sa suite, eh bien oui, je crois que personne n'irait à l'encontre de ça, c'est-à-dire la France-Afrique avec des porteurs de valises le soir, de valises, j'entends, d'espèces sonnantes et trébuchantes, eh bien, ce type de France-Afrique, où on manipulait les chefs de l'État, évidemment avec leur accord d'ailleurs, eh bien je pense que personne ne peut être contre pour cette France-Afrique-là. Mais la France-Afrique est plus vivante que jamais. Il n'y a qu'à visiter. D'ailleurs, je dirais l'Europe-Afrique finalement, parce qu'il n'y a qu'à voir dans chacun des États européens aujourd'hui le nombre d'Africains qu'il y a, et Africains très très souvent qui se sentent parfois plus chez eux en Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre qu'en Afrique. Il y a cette réalité-là. Il y a cette réalité que aujourd'hui, si on devait couper ça, ceci serait le premier à dire que la France les trahit en les abandonnant. Donc la France-Afrique est une réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur le plan politique, on l'a vu récemment, avec l'affaire douloureuse du Mali, que sans l'intervention de François Hollande au Mali, eh bien aujourd'hui les islamistes seraient au bord de Conakry, seraient au bord de peut-être d'Abidjan, ils seraient au bord peut-être de Dakar, parce qu'au fond les islamistes, qu'est-ce qui nourrit l'islamisme ? Eh bien, c'est cette misère qui existe en Afrique. C'est laisser pour compte qui sont l'essentiel de la population, des populations africaines. Et donc, cette France-Afrique-là, tout le monde sait la fierté qu'ont les Maliens. Or, le président, même s'il est intérimaire du Mali, a quand même fait appel à l'intervention de la France. Et sans cette intervention, entre nous, reconnaissons que Al-Qaïda avait des beaux jours devant lui. Bon, et que ce soit ce pays-là ou que ce soit d'autres, je pense qu'il en serait de même. L'histoire de Côte d'Ivoire, on ne sait pas si ça se serait terminé maintenant ou pas, mais ça serait fait dans un bain de sang que ni toi ni moi ne pouvons évaluer. Alors, donc, la France-Afrique, je pense qu'elle continuerait. Il n'y a qu'à aller voir à Paris Château Rouge. Château Rouge, c'est l'endroit où tu as l'impression de te trouver dans un marché de Kinshasa, ou dans un marché d'Abidjan, ou dans un marché de Conakry, etc. Or, tous ces gens-là se croient chez eux maintenant. Eh bien, ils ont raison d'ailleurs, ils travaillent en France ici, ou
bien
ils travaillent
en Suisse, merci.
Ou ils travaillent en Allemagne.
Merci. Voilà. Merci Ousmane Doré pour vos explications sur la crise sociopolitique que traverse actuellement votre pays, la Guinée-Conakry. Rapidement, vous avez 2 minutes pour répondre à cette dernière question que je trouve très, très, très importante. Alors, la Guinée traverse une zone de turbulence de son histoire. Alors, quel message concret avez-vous adressé à tous les Guinéens de tous bords, hein, je parle des Malinkés, des Peuls, des Soso, etc. Alors, quel message concret avez-vous adressé à tous ces Guinéens qui nous suivent sur le www.kanalka.ch, car de toute façon, nous devons reconstruire l'Afrique et la Guinée ensemble.
D'accord. Le message envers mes compatriotes, Peuls, Malinkés, Soso, Guerzé, Thomas, Manon, etc., j'en oublie d'ailleurs. Le message, il est très simple. Parce que ces populations ne s'en sont jamais voulues. Le problème, il n'est pas là. Le problème est politique. Et c'est au niveau des politiques. Il faut que les hommes politiques, et plus particulièrement ceux qui sont au pouvoir, prennent la décision de considérer tout Guinéen comme Guinéen. Considèrent les Guinéens comme Guinéens. Qui ne pointe plus jamais tel ou tel Guinéen en raison de son ethnie. Voilà le message qu'on peut... Ce que je peux dire aux gens de l'opposition, ils ne sont pas au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que les critiques ne vont pas souvent de ma part vers l'opposition. Qu'est-ce que je peux leur reprocher? Ils n'ont rien en main. Alors, ça serait quand même là, de ma part, de l'inconscience de les mettre sur le même plateau de la balance. Celui qui a l'épée et celui qui a un épée de fer et celui qui a l'épée de bois. On ne peut pas les mettre sur le même pied. Donc c'est au pouvoir que je demande d'assouplir quand même sa position et de comprendre la situation de l'opposition, de comprendre la situation dramatique de la population. Alpha Condé avait dit qu'en 6 mois, pendant le temps de l'ancien Condé, qu'en 6 mois, lui redressait la situation. Or, si les Guinéens avaient aujourd'hui de l'eau courante à satiété, s'ils avaient de l'électricité courante, je ne dis pas l'électricité industrielle, l'électricité courante. S'ils avaient les soins primaires de santé, etc., etc., s'ils mangeaient les deux principaux repas régulièrement dans la semaine ou dans le mois, eh bien, ils auraient fait un pas de géant. Mais ce président qui a été élu, je vais ajouter cela quand même à Amos, ce président qui a été élu en 2010 n'a pas mis encore pied à l'intérieur de la Guinée profonde, mais par contre a fait plus d'une vingtaine de voyages à l'extérieur de la
Merci.
Guinée. De
Merci.
Quoi a-t-il peur d'aller
Merci
serrer
beaucoup.
La main à ses électeurs.
Merci.
Voilà un président atypique.
Mmh.
À
Merci.
Point, d'ailleurs, j'ajoute, je termine par là,
30
que
secondes.
J'avais dit dans un de mes articles que c'était le président de la République de Conakry, puisqu'il n'en sortait pas.
Merci, merci beaucoup, doyen Ousmane Doré, professeur d'économie à la retraite en direct depuis la France, d'avoir commenté et analysé avec nous la crise sociopolitique en Guinée-Conakry. Merci et à bientôt.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.